Vous écoutez France Musique.
Léonard de Vinci a dit de la guerre qu'elle est la plus bestiale de toutes les bêtises.
14-18, petite musique d'une grande guerre. Aujourd'hui, 14-18, petite musique d'une grande guerre, s'intéresse aux femmes et dresse une galerie de portraits consacrée à quelques grandes musiciennes de la Grande Guerre, une émission de Clément Rochefort. Tradition militaire ancestrale oblige, on a parfois tendance à considérer que la guerre est l'affaire des hommes. À ceci près qu'en août 1914, suite à la mobilisation en France, la plupart des hommes en âge de travailler sont en route pour le front, laissant seules les femmes à l'arrière. Et qui dit rester à l'arrière ne dit pas rester sans rien faire. Désormais, elles distribuent le courrier, s'occupent des tâches administratives, conduisent les véhicules de transport. Elles reprennent en main les travaux agricoles ou deviennent munitionnettes, fabriquant pendant 4 ans près de 300 millions d'obus et plus de 6 milliards de cartouches. D'autres se font marraines de guerre, jouant auprès des poilus les mères, les épouses et les sœurs de substitution. Ainsi, la guerre de 14-18 a bouleversé la vie des femmes et leur place dans la société. Un destin qui n'a pas épargné les musiciennes. Cécile Chaminade, née à Paris en 1857. À 3 ans, elle sait déjà jouer du piano sans savoir lire les notes. Elle étudie la composition, encouragée par Saint-Saëns et Chabrier, protégée par Bizet qui l'appelle son petit Mozart. En 1879, à 22 ans, la voilà déjà membre actif de la Société Nationale de Musique, alors même que l'on ose encore à peine prononcer le mot de compositrice. Sa carrière est lancée. Cécile part en tournée, elle est reçue en 1894 par la reine Victoria au château de Windsor, et puis c'est Bucarest, Vienne, Genève, Athènes, la Turquie, avant l'arrivée dans un bain de foule hystérique aux États-Unis en 1908. Elle ne sait pas encore qu'elle connaît là le fête de sa carrière. Au début de la guerre, Cécile Chaminade retrouve sa villa de Tamaris, dans le Var, et prend la présidence du comité d'assistance aux convalescents militaires de l'établissement des Sablettes. Tous les jours, elle leur fait la lecture, leur écrit des lettres ou leur tricote des chaussettes. Au besoin, elle donne des concerts ou vend ses manuscrits afin de réunir les fonds nécessaires au maintien de son hôpital. À la fin de la guerre, elle est au bord de l'épuisement et sa situation financière n'est pas réjouissante. Sa fréquentation quotidienne des militaires malades entraînera quelques années plus tard l'amputation de son pied. Plongée dans une mélancolie qui ne la quittera jamais, Cécile Chaminade est désormais bien loin du succès naissant qui lui avait dicté son superbe trio numéro 2 en 1884. Le premier mouvement du trio numéro 2, opus 34, de Cécile Chaminade par le trio Chausson. La pianiste Marguerite Long non plus n'a pas été épargnée par la guerre de 14-18. Grande pédagogue, première femme nommée professeure au Conservatoire de Paris, fondatrice du célèbre concours qui porte son nom et infatigable interprète des œuvres de ses contemporains, Millau, Jolivet, Debussy, Déodat Sévrac, Gabriel Pierney, Honegger, Marguerite Long perdit, dès le début de la guerre, le 24 août 1914, son époux, le musicologue Joseph de Marliave, capitaine de Marliave, debout au milieu des hommes, les exhortant de la voix et leur donnant par son attitude l'exemple le plus frappant de la bravoure et de l'esprit du sacrifice, selon les mots du colonel Jean-Jean, commandant le 214e régiment d'infanterie. Profondément affligée, sapée en pleine carrière, Marguerite Long quitte la scène. Elle n'y reviendra qu'en 1917, après 3 ans de deuil, poussée par Debussy à reprendre goût à la musique. En 1919, elle crée le tombeau de Couperin, dont Ravel a dédié la toccata à son défunt mari, Joseph. Joseph qui avait fait naître en elle une passion indéfectible pour la musique de Fauré, l'année de leur rencontre, en 1906, année où Fauré lui avait dédié son 4e impromptu, ici sous les doigts de Jean-Philippe Collard. Le 4e impromptu de Gabriel Fauré, sous les doigts de Jean-Philippe Collard. Enfant prodige, mais de santé fragile, la petite Lily Boulanger entre au Conservatoire de Paris en 1909. 4 ans plus tard, elle devient la première femme à remporter le premier Grand Prix de Rome de composition musicale. En 1914, elle part donc prendre ses quartiers à la Villa Médicis, mais elle n'y restera que 4 mois, car entre-temps la guerre a éclaté. Atteinte de tuberculose intestinale, Lily Boulanger s'éteint à l'âge de 24 ans, le 15 mars 1918. Même pas le temps de respirer, ne serait-ce qu'un peu, le doux parfum de la victoire. Thank you. C'était Nocturne et Cortège de Lily Boulanger, Amanda Favier au violon et Célimène Daudet au piano. Le destin de sa grande sœur, Nadia Boulanger, sera lui aussi conditionné par la Première Guerre mondiale. En 1917, les États-Unis entrent en guerre. Le général Pershing choisit Chaumont, en Haute-Marne, pour y implanter son quartier général. Désireux d'améliorer la qualité des orchestres militaires américains, il demande à Walter Damrosch, directeur musical de l'Orchestre symphonique de New York, de fonder une école à Chaumont avec le chef français Francis Casadesus. Fort du succès de l'opération, cet échange franco-américain se prolongera en 1921 avec la fondation du Conservatoire américain de Fontainebleau. Nadia Boulanger y entre comme professeur d'harmonie et y enseignera jusqu'à sa mort en 1979, formant ainsi toute une génération de compositeurs américains, parmi lesquels le jeune Aaron Copland. Dès son retour aux États-Unis en 1924, Copland crée sa symphonie pour orgue et orchestre avec à l'orgue Nadia Boulanger en personne. C'était le scherzo de la symphonie pour orgue et orchestre d'Aaron Copland avec Edward Power Biggs à l'orgue. L'orchestre philharmonique de New York était dirigé par Leonard Bernstein. C'était 14-18, Petite musique d'une grande guerre, une émission proposée aujourd'hui par Clément Rochefort en coproduction avec les radios francophones publiques, réalisée par Patrick Lérisset et Stéphane Touvenin.